Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fais mes bacs, tu vois. Je te file.
Je fais les adlibs.
Ouais, on n'a pas du tout. Je te jure, on avait fait d'une traite à la Damso.
On s'en fait pas forcément, tu vois.
À la Damso.
C'est bon pour nous. Ouais, let's go.
Salut à tous, c'est Ismaël. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Groover Chips. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet capital pour les artistes indépendants, mais qui reste bien souvent assez flou, voire opaque dans la tête de certains, c'est la distribution. Alors à l'heure où il est devenu très simple de produire de la musique chez soi sans trop de moyens, on va se demander comment bien la distribuer, comment bien choisir son contrat de distribution. On va essayer de vous donner le plus de conseils possible et pour ça, je suis accompagné de deux invités, un jeune artiste et un pro de l'industrie. Alors le professionnel de cet épisode, c'est Alexis Borenstein, j'espère que je prononce bien, qui travaille chez Believe, qui est une maison de disques spécialisée notamment dans la distribution et qui travaille avec Jul, PNL, mais aussi Seth Gecko ou Euslan Foiré pour ne citer qu'eux. Et Believe possède également TuneCore, qui est un agrégateur digital. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Alexis d'être là. Comment ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ben ça va super. Ton poste précis chez Believe, je crois que c'est Head of Talent, Scout et Artist Relation Urbain. Alors ça consiste en quoi, au-delà de mon piètre accent ?
Alors en gros, pour faire très simple, Head of Talent, Scout, c'est-à-dire que je vais diriger l'équipe des Talent Scouts. Donc les Talent Scouts, ce sont les personnes qui vont être là pour rencontrer les artistes, donc découvrir des talents par définition, sourcer tous ces artistes, les rencontrer, négocier avec eux, potentiellement du coup signer ensuite avec eux et les assigner entre guillemets à un chef de projet qu'on appelle Artist Relation. Donc moi je suis en partie aussi Artist Relation parce que j'ai commencé comme ça. Et donc du coup il y a des artistes avec qui j'ai continué de travailler même ayant changé de poste.
Ok. En gros. Ok. Ouais. Face à toi. Notre talent du jour, c'est BGL, qui nous vient de la banlieue sud de Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelques années de rap au compteur, des participations au Rap Contenders, deux EP depuis 2018, Rhapsody et Chrysalide. Le dernier titre en date, il s'appelle Black Mamba, et ça donne ça.
Le moral est miné, j'ai taffé d'arrache-pied, ma rage paiera ton addiction. Ma diction plaira à tes copines, tu sentiras ton addiction. Envers-moi, tu me diras, emmène-moi d'ici là. Je dissimule ton prénom, je me dénonce en d'ici là. Je fais des plans sur la comète, on cache, on sera vite proche. Des embrouilles comme au collège, on se fâche, on sera biboche. C'est pas de l'amour, c'est du 7ème art. De toute façon, c'est le même scénar à chaque fois.
Black Mamba de BGL. BGL, merci d'être là, comment ça va ?
Bah de rien, ça va nickel.
Tout va bien pour
l'occasion
toi.
De se dégourdir les jambes.
Oui, voilà, on n'a plus trop d'occasion de sortir. Ouais. Ça se trouve, quand les gens écouteront ça, on sera totalment déconfinés. On ne sait pas dans quel monde on sera.
Espère.
Et oui, on espère. Tu nous feras un live en fin d'émission, donc on te découvrira un peu plus encore. Yes. Mais en attendant, rentrons dans le vif du sujet, la distribution. Et je commence par toi, du coup, BGL. Ouais. La distribution de tes projets, comment ça se passe ? Je crois que sur les plateformes, j'ai vu qu'il y avait juste écrit BGL en termes de en dessous, là, de label et tout.
Non, il y a IMDB parce que c'est, je passe par iMusician.
Ok.
Et j'en ai testé plusieurs, j'ai testé Spinup en premier, mais il me semble que c'était il y a longtemps, donc il manquait certaines plateformes, donc j'étais passé sur iMusician parce qu'il y avait un pote qui m'avait dit que c'était ce par quoi il passait. Mm-hmm. Et depuis je passe dessus, en vrai c'est clean, ils répondent pas mal, ils répondent assez rapidement et j'ai eu plein de galères avec des pochettes, des trucs avec des écritures en trop, enfin bref, plein de trucs, donc ils sont assez réactifs, donc jusque là ça va.
Donc comment ça se passe ? Tu payes un abonnement chez eux, c'est ça ?
Si tu payes, alors je crois que là moi vu que j'ai fait que du titre par titre, c'est tu payes un titre et t'as différentes licences, enfin différents, je sais plus comment ils appellent ça, mais t'as différentes offres et ça va de Rockstar à je sais plus quoi et en fait après en fonction de ce que tu vas payer plus et ils vont te prendre un pourcentage supérieur. Après moi j'ai mis le truc Rockstar, c'est ils te prennent 0%. Bon, jusque là j'aurais dû prendre des trucs où ils me prenaient plus parce qu'au final j'ai plus perdu qu'autre chose. Mais
c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire que t'as plus
cher? En fait ils prennent 0% de commission, ouais. Tu payes plus cher mais il y a 0 commission. Et après je crois que t'as un 15% et t'as un 30%.
Okay.
Mais du coup le prix est dégressif en fonction de ce que tu vas prendre comme forfait et, moi à chaque fois je prends le Rockstar.
C'est combien par... C'est par mois que tu payes ou...
Non, non, ça ce qui est bien aussi, c'est que j'étais passé par d'autres agrègues où c'était tous les mois. Et là, c'est à vie.
Ok.
Tu payes une fois et après, c'est bon.
D'accord. Et c'est quoi le montant à peu près?
C'est. Alors, moi, je m'y prends toujours à la bourre. Donc, t'as des trucs de livraison express qui sont plus chers. Mais ouais, c'est du 20 balles, 30 balles. Comme ça, 30 balles, 29 balles ou 39 balles, je crois.
Okay.
Et après, t'as des livraisons express, genre c'est, tu payes 10 balles ou 20 balles en plus et tu peux l'avoir au bout de deux jours, ce qui m'arrive souvent. Et du coup, ouais, du coup, c'est à peu près ça. Une quarantaine, entre 30 et 40 euros, je crois.
Ok, alors du coup, je me tourne vers notre pro de ce domaine. Déjà, avec une question de base, Alexis, pour toi, à l'heure du streaming, justement, c'est quoi la distribution musicale? On entend ce mot-là qui paraît évident, mais. C'est pas possible en fait de mettre sa musique tout seul sur les plateformes?
Bah justement on peut, comme BGL a fait, donc c'est aucun souci. Après il y a différentes manières de le faire, c'est-à-dire qu'on peut passer par un agrégateur, donc comme iMusician, SpinUp, TuneCore, DistroKid et bien d'autres. Et on peut passer donc par un distributeur comme Believe, comme beaucoup d'autres, comme même beaucoup de labels proposent aussi des services de distribution simples, on va dire. Maintenant, c'est quoi la distribution? À l'heure actuelle, à l'heure du streaming, c'est vraiment balancer ses sons un peu n'importe quand on le veut, et ne plus être, attendre le jour forcément vendredi, le jour de sortie, pour justement sortir ses titres. C'est-à-dire que tu vois, avant quand il y avait du physique, en général, les albums sortaient les vendredis parce que justement, pour comptabiliser les ventes, en gros, c'était à l'époque, c'était qui? GFK, pardon, c'était GFK donc, qui calculait le nombre de ventes par semaine. Il calculait du vendredi au vendredi. Et justement, maintenant, on se rend compte qu'au final, même s'il y a ces calculs-là qui sont toujours présents parce que c'est basé aussi sur les ventes physiques, on se rend compte qu'avec le streaming, on peut sortir des titres n'importe quand. Et du coup, la distribution, c'est ça. C'est juste sortir des sons quand tu veux, quand tu le souhaites. Et tu vois, j'ai vu ce matin un tweet de Mehdi Maizi qui parlait de Damso, justement, qui sortait un album un jeudi, tu vois.
C'est ce soir, je crois.
Ouais, donc jeudi minuit, qui n'a pas attendu vendredi. Et c'est là où il explique que est-ce que vraiment on a besoin d'attendre ce vendredi. Et donc en fait pour moi ça représente un peu le fait que la distribution à l'heure actuelle, à l'heure du streaming, c'est la liberté de sortir des titres quand tu veux.
Mais alors concrètement, imaginons que voilà, je sois un jeune artiste qui ne connaît rien à toutes ces technologies là, tout seul sans passer par un agrégateur, je ne peux pas poster mon son sur Spotify par exemple.
Non.
Si je peux pas.
Non, tu peux pas.
Et il faut quelqu'un qui nous aide à le faire. Qui...
C'est ça. En fait, un agrégateur ou un distributeur, il faut savoir qu'on distribue à 240 territoires environ. Donc, si tu veux le faire par toi-même, faut monter ta boîte de distribution, donc négocier avec 240 territoires, 48 même peut-être. Donc, c'est compliqué.
Ok. Quand tu dis territoire, c'est des pays
Ouais, les pays, ouais.
Ok. D'accord. Quelle est la différence entre un agrégateur comme ce que fait BGL avec iMusician, c'est ça, et Believe, du coup, qui est une maison de disques là, qui s'occupe, qui est un distributeur en fait.
Ouais. Alors l'agrégateur, par définition, c'est en fait ça va être un distributeur numérique qui marche au forfait, justement comme il fait, et dans lequel la plupart du temps l'artiste touche 100% de ses royalties, c'est-à-dire touche 100% de l'argent qui est généré par les streams qu'il fait. En distribution, en général, la distribution, on va pas seulement distribuer les titres sur les plateformes, il y a quand même quelques services en plus qui accompagnent l'artiste. Tu vas avoir un chef de projet, des chefs de projet vidéo, une équipe trade marketing qui va justement parler aux plateformes de l'artiste pour essayer de le placer en playlist potentiellement. Donc il faut savoir que la distribution, c'est pas juste distribuer des titres et on fait plus rien derrière. D'où le fait que on va prendre un pourcentage. En distribution, le pourcentage, il va être pour le distributeur ou le label de 30 à 20% selon l'artiste, selon la négociation, parfois même moins pour les très gros artistes avec qui il y a une très grosse négociation. Mais pour comprendre, un distributeur prend une petite partie parce qu'on propose quelques services, alors qu'un agrégateur laisse 100% des royalties parce qu'il y a zéro service.
Alors peut-être, on reviendra après sur les pourcentages et tout, mais justement sur les services précis, tu as déjà évoqué quelques petits trucs, tu as évoqué du marketing, tu as évoqué de la promo. Ça c'est standard quand tu signes un contrat de distrib, les maisons de disques te le proposent, ou alors c'est à toi de décider selon tes besoins aussi? Comment ça se passe en fait?
Alors en général, une distribution a son... C'est ça, c'est un contrat standard, c'est-à-dire des services qu'on va proposer de base, clairement. Quand je parle de marketing, c'est trade marketing. C'est une différence. Trade marketing, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va être en relation avec les plateformes pour ce qu'on appelle pitcher les sorties, pour essayer d'avoir des playlists. Marketing, c'est vraiment des sponsors et c'est toute une strat.
Donc là, on parle du trade marketing.
C'est ça, tout à fait. Un distributeur, donc c'était quoi ta question du coup?
Non, mais en gros, oui, quels sont les services proposés, ouais, pour entrer un peu plus dans le détail en
fait. Ça va être un chef de projet. Alors, c'est ça pour plus ou moins toutes les distributions. Parce que, encore une fois, tu vois, des labels ou des maisons de disques comme Universal ou comme Sony ou comme Warner ont leur service de distribution aussi. Donc chacun peut proposer un contrat de distrib. Nous, on a commencé par ça, même si par la suite, on a créé aussi des labels. Mais c'est vrai qu'en distribution, on va quand même accompagner l'artiste. Le but, c'est de développer l'artiste, c'est pas justement de le bloquer, entre guillemets, c'est vraiment d'essayer de lui apporter toutes les armes possibles pour qu'il développe son projet et qu'il soit le plus visible possible. Tu vois. Donc il y a forcément un chef de projet qui va être là pour l'accompagner, pour le conseiller sur son planning, sur sa stratégie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour qu'on comprenne plus facilement, la différence entre un chef de projet en distribution et un chef de projet en label sur un contrat d'artiste ou de licence, un chef de projet en distrib, il va être là pour conseiller, pour accompagner, alors qu'un chef de projet en label, il va être là vraiment pour plus exécuter, c'est-à-dire qu'il va définir une stratégie de marketing, la mettre en place, contacter telle ou telle personne pour la mettre en place. En distribution, on va conseiller, on va dire voilà, ça serait bien que tu fasses ça pour ta sortie. Maintenant, si l'artiste ne le veut pas ou ne le fait pas, en distribution, on peut pas faire grand-chose de plus, tu vois. D'où le fait qu'on travaille aussi beaucoup et qu'on met en avant les artistes indépendants, ou en tout cas qui ont une équipe assez bien organisé pour travailler de manière indépendante.
Oui, on arrive quand même en bout de chaîne sur la distribution.
Exactement, ouais, c'est ça.
Ok. Il y a une petite distinction, tu as déjà évoqué là, contrat d'artiste, mais plutôt moi, ce qui m'intéresse, c'est contrat de label, parce que sur les jeunes artistes indépendants, il y a souvent cette hésitation-là. Est-ce qu'on va chercher un contrat de licence, voire de licence améliorée d'ailleurs, ou est-ce qu'on va, on s'assume totalement, pleinement indépendant et on va sur de la distrib? Est-ce que... t'as des conseils à donner sur dans quel cas il faudrait plutôt préférer l'un ou l'autre?
Alors, selon moi, il n'y a pas forcément de recette magique, entre guillemets, dans le sens où un artiste qui sait bien se gérer tout seul, qui est bien organisé, qui a même la chance potentiellement d'avoir une équipe derrière lui, ça va être même un pote qui est manager, tu vois, ou un producteur, quelqu'un qui va lui gérer ses réseaux, les relations médias, etc. Quelqu'un qui est bien organisé peut tout à fait s'en sortir en distribution. Et grâce aux services que justement la distribution propose, qui sont complémentaires justement à toute son organisation, l'artiste peut très bien marcher. Maintenant, la licence, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas avoir des services que la distribution ne propose pas, des services comme tu vois un attaché de presse ou justement du marketing, ou en fait tous ces services-là vont plus facilement accompagner l'artiste dans son développement, ce qui est très bien. Mais c'est des services internes, donc forcément, on en parlera plus tard, mais du coup le taux est un peu différent et donc le label va prendre une plus grosse part qu'une simple distribution. Maintenant, en fait, l'artiste ne peut pas vraiment conseiller à un artiste d'aller en licence ou en distribution, parce que pour moi, il y a un peu un jeu d'équilibre, un fuis-moi, je te suis, entre guillemets, entre les artistes et les labels maisons de disques, parce qu'un artiste, tu vois, qui ne marche pas très bien, qui est en développement, a en général du mal à trouver un contrat, tu vois, tout de suite, d'où le fait que la plupart passent par des agrégateurs au début. Et donc du coup c'est un peu le jeu du chat et la souris, dans le sens où les labels ne vont pas forcément vouloir le signer, ou même des distributions ne vont pas vouloir forcément le signer, mais dès qu'il commence à être connu, là il y aura un intérêt, donc trouver une licence à ce moment là ce sera beaucoup plus facile. Également pour une distribution, la distribution on peut s'y prendre un peu plus tôt dans la carrière de l'artiste, parce qu'on peut justement, qu'il y a moins de services, on peut accompagner beaucoup plus facilement un artiste à ses débuts, alors qu'une licence, tu vois, je peux pas dire à un artiste en développement va en licence. S'il n'a pas de contrat, s'il n'a pas de proposition, il ne peut pas en avoir. C'est pour ça que je te parle du jeu du chat, ouais, et de la souris, dans le sens où si l'artiste ne marche pas, il n'y aura pas forcément d'intérêt de la part des labels.
Ouais, il y a l'offre et la demande.
Exactement.
Globalement, ok. Ouais. Par rapport à ça, toi, BGL, est-ce que c'est des questions que tu t'es posées, d'aller chercher ou une licence ou une distribution?
Ah, oh ouais, carrément.
Ouais.
Ouais.
Comment t'as tranché tout ça?
En vrai, je te mentirais si je te disais que j'avais déjà tranché totalement. Après, maintenant, j'ai beaucoup plus, je sais beaucoup plus. Enfin, je me suis renseigné sur tout ça, donc avant, je pense que j'avançais un peu à l'aveuglette, tu vois. Maintenant, je sais, je te dirais... En fait, je sais pas, ça dépendrait des contextes, mais dans un premier temps, comme l'a dit... Merde, Alexis.
Alexis.
J'ai des problèmes avec les problèmes. Comme l'a dit Alexis, c'est... Moi, l'avantage, c'est que là, je commence à avoir une team qui vraiment se greffe bien, où on bosse vraiment tout le temps ensemble. Avant, c'était un réel à droite à gauche, un beatmaker à droite à gauche. Maintenant, il y a vraiment, genre, je bosse avec une DA, j'ai un manager. Ça commence vraiment à se resserrer, donc... Il y a des moments où je voulais être par exemple en contrat d'artiste ou des trucs comme ça, parce que t'es chouchouté, t'as ce truc de t'arrives, tu fais du son et tu fais rien d'autre, même si je pense que c'est plus compliqué que ça une fois que c'est arrivé, mais tu vois un peu ce truc là et je pense qu'à un moment où j'étais un peu paumé, je me disais bon bah ça c'est parfait, parce que T'étais là, tu fais un taf, tu rentres, t'écris, tu sais même pas à quoi ça sert et tout. Là, tu te dis, bon, bah, ok, je suis payé pour aller en stud, pour aller sur un clip, c'est pas moi qui gère tout ça. Surtout que, enfin, j'ai un manager, mais qui joue beaucoup un rôle de conseiller parce que lui, c'est un vieux de la vieille, entre guillemets, tu vois, genre, il fait autre chose, donc il me conseille beaucoup, mais c'est moi qui vais gérer tout. Enfin, tout, je vais envoyer pour les clips, pour les trucs comme ça, donc ça, c'est chiant. Donc, pour ça, j'aurais dit artiste, mais après, là, vu, comme je t'ai dit, tout un petit écosystème vient se greffer autour du projet. La distrib, ce serait un avantage, c'est que du coup nous on peut continuer à bosser ensemble, on peut continuer à apprendre à bosser ensemble. Et la partie qui est relou, à savoir aller chercher des playlists, aller être mieux, parce que là avec les agrègues, j'ai aussi des soucis de, tu sais qu'avec des distrib tu peux créer des stratégies pour sortir ton projet plus élaboré. Tu peux ne serait-ce que le sortir pas à minuit, genre je sais plus, ça m'avait surpris ça, j'étais allé voir Les Étoiles Vagabondes quand Nekfeu l'avait sorti. Je crois que la séance était à 18h30. Et à 20h15, à la fin de toutes les séances, l'album il était dispo. Là, tu vois, sur n'importe quel agrègue, je crois que tu peux pas sortir à un autre moment que minuit, si je me trompe pas. Enfin, plein de trucs comme ça. Et même pour aller voir tes playlists, là, je m'étais fait une liste de 60 playlists. J'ai envoyé à tout le monde. Et c'est payant ou ils te répondent pas.
Ouais.
Donc c'est un travail de chien en vrai. Donc c'est cool si quelqu'un d'autre le fait. Tu vois.
Oui, donc. Alexis, pour rebondir là-dessus, tu as une meilleure visibilité, tu es mieux référencé sur les plateformes de stream si tu passes par un distributeur que par un agrégateur.
Complètement, parce que justement, il y a une équipe qui va... En fait, le rôle de l'équipe du trade marketing dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'équipe qui va être vraiment là pour identifier l'artiste auprès des plateformes, c'est-à-dire les appeler, faire beaucoup de calls, des relances, des mails, des écoutes en exclu, leur dire voilà, tel artiste va sortir ça à tel moment, voici le planning, voici les feats, il y aura un clip là, etc. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir bien identifier l'artiste pour que les plateformes, donc les éditos des plateformes, c'est ceux, donc les éditos, ceux qui font les playlists et qui les mettent à jour, pour qu'ils se disent, ok, j'ai entendu le nom de BGL une fois, deux fois, trois fois dans des calls, dans des rendez-vous, etc. Mmh. Je vois que son titre marche, ok, attends, je vais vraiment m'y intéresser. Et tu vois, peut-être qu'au bout de deux, trois, quatre sorties, bah, la cinquième, hop, t'auras une playlist, tu vois. Et justement, le travail, c'est de pouvoir vraiment identifier l'artiste auprès des plateformes. Après, on parlait tout à l'heure de licence, juste pour pas qu'il y ait de malentendus. Quand je parlais du fait qu'un artiste ne va pas être un label ne va pas être intéressé par un artiste si l'artiste est trop en développement, bien sûr, il y a toujours des coups de cœur parfois.
Bien sûr.
C'est-à-dire que voilà, on voit toujours des artistes qui se développent, qui sortent de nulle part, qui marchent, qui sont chez Sony, chez Universal.
Oui, et puis différentes tailles de structures aussi, de labels aussi qui vont s'intéresser. Ok. Et par rapport à ça, comme ça on conclut là-dessus sur les pourcentages, la différence entre artiste, licence, distribution, un peu en termes de répartition pourcentage artiste et pourcentage la structure qui l'encadre. Tu disais 20 à 30% en distrib.
Ouais.
Pour
20,
le...
ouais, 20 à 20, même 15 pour les très gros artistes.
Alors, disons précisément 15, en fait c'est, du coup c'est 85% pour l'artiste.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
70 à 85 pour l'artiste, de manière générale.
En distrib.
En artiste, ça va être plus ou moins l'inverse, même moins, c'est-à-dire que l'artiste va toucher entre 8 et 13%, 14%. Maintenant, ça évolue un peu plus, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment des taux minimes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 13-14 selon l'artiste et selon les négociations, bien sûr. Et en licence, ça va être un peu entre les deux, mais l'artiste va quand même toucher un peu moins, c'est-à-dire que l'artiste va être sur 30 à 40 parfois, selon les négos, encore une fois, et selon la taille de l'artiste, sa notoriété et son engagement aussi, tu vois, s'il est là, s'il... Il accepte de signer pour tant de projets, c'est-à-dire de s'engager plus avec la structure. Il peut justement jouer sur ça pour pouvoir négocier son taux.
Ouais. Et en distrib et aussi en licence, t'es propriétaire de tes masters.
C'est ça, en licence et en distrib. Alors qu'en artiste, non.
Ok. C'est quelque chose qui aurait pu faire pencher la balance pour toi dans ta tête aussi ou pas, BGL ?
Aussi, parce que c'est un peu un bond dans l'inconnu aussi quand tu te renseignes sur les contrats et tu sais qu'il y a un moment ta musique va plus t'appartenir. Dans le sens où, même si au début t'es un peu, c'est pas que t'y crois pas, mais genre, il y a un morceau, tu sais pas, du jour au lendemain il peut péter, si tu dis que ce morceau là il t'appartient pas. Après il y a toujours un pour et un contre, dans le sens où c'est comme des gens qui vont aller signer en distrib, la distrib va prendre 30% parce qu'elle t'apporte un service. Donc après je pense qu'il y a des gens qui ont signé à des moments en artiste, les masters leur appartiennent pas, mais vu ce que le label leur a apporté d'un point de vue com, d'un point de vue budget pour des séminaires, pour des prods, pour tout ça, peut-être qu'ils sont gagnants. Après, c'est vrai que c'est un peu flippant, ce truc de te dire merde. Surtout que t'as toujours un peu ce mythe qui reste de bah, les labels sont. Moi je le partage pas, mais je sais que ça en parle souvent de voilà, les labels c'est un peu le grand méchant loup, c'est t'as le monsieur qui. C'est Monsieur Burns, tu vois, Monsieur Burns derrière son bureau qui veut tout rafler, c'est un peu ce truc là. Moi je sais pas, je l'ai pas vu et je pense pas que ce soit aussi aussi.
Oui, les expériences sont variées de toute manière selon les.
C'est ça.
Selon les
et je pense que c'était plutôt aussi à l'époque, à mon avis.
Aussi,
il y avait
ouais.
ce truc un peu, tu vois, de requin, entre guillemets, ouais. tu vois, de vouloir profiter.
Non, et puis à mon avis, c'est commun à tous les milieux, tu vois, c'est un. Ça dépend des artistes, mais t'as de l'argent à se faire. Je veux dire, t'as des gens honnêtes et malhonnêtes. Tu vois, sur un marché, un primeur, il y en a des malhonnêtes et il y en a des honnêtes, tu vois, genre c'est pareil. Mais oui, non, en tout cas, les différents contrats et les trucs qui peuvent te bloquer un peu, tu vois.
Ouais, bah alors justement, parlons de ça, peut-être des détails des contrats de distribution pour éviter de tomber dans les mains de Monsieur Burns.
Non, distribution, moi.
Ouais, non, mais oui, j'imagine.
Justement, c'est pour ça, la distribution, je pense que ça fait moins flipper les gens parce que t'as moins ce truc-là, t'as moins ce.
Plus indé, quoi. Dans
plus indé, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, comme le disait Alexis, c'est que ils proposent des choses, mais t'es en droit de les refuser. Ouais. Même si, à mon avis, c'est pas très productif si tu bosses avec des gens, de pas appliquer leurs conseils ou quoi. Mais t'es pas pieds et poings liés.
Ouais.
T'as encore ce truc-là, cette liberté, mais donc ça peut t'amener quand même, cette liberté, elle peut t'amener à faire des conneries, parce que, bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, mais je pense que c'est pour ça que ça séduit plus et que c'est plus courant.
Ouais.
Mais en fait, t'es ton propre producteur.
Ouais.
Du coup, forcément, t'as les droits sur tes masters, ouais. Donc t'en fais ce que tu veux.
Est-ce que, Alexis, il y a des clauses, des paramètres auxquels il faut faire attention quand on signe un contrat de distribution?
Alors,
sur quoi t'alerterais, toi, les jeunes indés?
Sur quoi j'alerterais les jeunes indés? Sur... Il y a quelque chose qu'il faut sur lequel faire quand même relativement attention, c'est le temps d'exploitation et surtout le temps d'exclusivité. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que l'exclusivité va faire en sorte que, bon, forcément, tu vas signer pour un catalogue, tu vas devoir sortir ce catalogue-là précis. Tant que tu l'as pas sorti, forcément, t'es en exclu chez cette distribution, ce qui est totalement logique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a toujours un temps de distribution, d'exclusivité qui suit la dernière sortie, enfin ta dernière sortie prévue au contrat. C'est-à-dire que si tu as négocié pour, je dis n'importe quoi, deux albums, il y aura forcément, par exemple, 6 mois d'exclusivité après la dernière sortie que tu balances. C'est-à-dire que pendant 6 mois après ta dernière sortie, tu peux rien sortir d'autre. Ce qui est fondamentalement assez logique dans le sens où si tu sors un album chez, donc, par exemple, Believe, puisque je travaille là-bas, et que 2 mois plus tard, tu veux sortir un autre album chez Idol, tu vois, qui est le concurrent, ça serait un peu dommage parce que du coup, nous, ça tue l'exploitation de l'album qu'on aurait pu avoir. Enfin, tout simplement. Donc, il faut faire juste attention à ces mois d'exclusivité. Savoir que ça peut aller... Chez nous, en général, on n'en met pas beaucoup. Ça va être en fonction de la notoriété de l'artiste, tout simplement. Si c'est un gros artiste, on va vouloir mettre 7, 8, 9 mois. Si c'est un petit artiste, 3 à 4 mois. Pour justement les laisser un peu plus libres, entre guillemets. Mais il faut vraiment faire attention parce que j'ai vu des contrats, donc pas forcément chez Believe, sur lesquels l'artiste avait 24 mois ou 18 mois d'exclu.
Ouais, ça te bloque beaucoup là.
Et en fait, il est obligé d'attendre 2 ans avant de sortir un nouveau titre. Donc ça le bloque totalement, ça hype redescend.
Mais d'exclu ou d'exploitation?
Enfin, d'exclu.
Ok. Et après l'exclu, t'avais l'exploitation aussi?
T'as l'exploitation. L'exploitation, ça veut dire seulement.
Une fois que tout est sorti, ils ont encore un peu une mainmise dessus.
Pas une mainmise, c'est juste que la distribution va exploiter ses titres,
okay.
Donc va garder ses 30 ou 20% de son côté pendant 3, 4, 5, 6 ans.
Alors c'est ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des standards là-dessus sur le temps d'exploitation?
Pas réellement. Nous, en distribution, on va partir... on part sur un minimum de 4 ans,
en
général. Okay. Maintenant, ça peut aller plus loin. Je sais que, justement, sur des contrats de licence d'artistes, ça peut aller sur 7, 8, 9 ans. En distribution, en général, c'est 4 ans minimum et on essaie de négocier jusqu'à 5 ou 6 si l'artiste est plus gros et si on sait que son catalogue va durer dans le temps, justement.
Donc juste pour savoir, pour être bien clair sur un truc, imaginons, je signe un deal de distrib pour peut-être 4 ans, du coup, sur l'exploitation d'un projet. Au bout de ces 4 ans-là, si le travail avec cette maison de disques ne m'a pas plu, je peux éventuellement ressortir le projet avec une autre maison de disques qui va faire de la promo différemment et tout au bout des 4 ans. C'est possible ça ou pas?
C'est totalement possible, mais c'est pas très intéressant parce que si tu vois, si tu récupères ton catalogue et que tu le distribues autre part, 4 ans après, tu seras déjà passé à autre chose, tu auras sorti d'autres projets, donc ça n'aura pas vraiment d'intérêt de repromouvoir, tu vois, ce projet-là.
Okay.
Le seul intérêt de changer justement de changer de distributeur, c'est par exemple à la fin de ces 4, 5, 6 ans et que tu veux en fait récupérer la totalité de tes droits, par exemple de tes 100% de tes royalties. Là, tu vois, l'intérêt, ça serait de le placer chez un agrégateur, tu vois. Ou par exemple, si tu négocies avec un autre label 3, 4, 5 ans plus tard, justement, plus ou moins vers la fin de ta durée d'exploitation, le label peut demander de récupérer l'exploitation de ce catalogue. C'est-à-dire que tu as un Damso typiquement, batterie faible, tu vois, qui doit encore actuellement générer peut-être 60, même beaucoup plus, 100 000 streams par jour, admettons, il faut te dire que tous les jours, il y a de l'argent qui tombe. Donc tu vois, si il passe chez Sony, par exemple, dans 2 ans, et que son exploitation de batterie faible, donc son premier album, est finie, il peut refaire passer l'exploitation chez Sony, ce qui fait que Sony va directement, enfin dès qu'ils vont récupérer l'exploitation du catalogue, vont générer de l'argent. Et donc ça va aussi leur permettre après de jouer sur la négociation, de mettre plus ou moins d'avance, etc.
Okay.
Donc en fait le back catalogue, donc ça, on appelle ça le back catalogue, va servir vraiment pour la suite de ta carrière, surtout sur les avances ou sur récupérer l'entièreté de tes royalties, tout simplement.
Mais du coup, d'un point de vue évolution d'un contrat, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des options aussi en fonction de comment le contrat va se dérouler ou quoi que ce soit, parce que je sais que ça c'est aussi une question que je m'étais posée et que j'étais pas le seul, j'en avais parlé avec d'autres. Le fait de... ça pouvait être un boulet au pied aussi de signer en distrib tôt, dans le sens où tu vas avoir un contrat qui, si imaginons demain t'as un truc qui pète, sera pas à la hauteur des résultats que t'auras le lendemain. Donc, imaginons là, moi je signe un... je sais pas, j'imagine là je signe un contrat en distrib qui est pas gros, mais normal vu que je fais pas énormément de chiffres. Mais 3 mois plus tard, je sors un morceau qui pète les scores de fou. Et j'en sais rien, je deviens une nouvelle star du jour au lendemain comme il y en a eu quelques-unes. Là, du coup, le premier contrat que j'aurais signé en tant que rookie sera plus exactement adapté à la situation dans laquelle je me retrouve.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Est-ce qu'il y a
sûr.
Des possibilités d'évolution dans ces cas-là?
Toujours. Alors, moi, je travaille chez Billy, je n'ai pas travaillé chez les autres, mais je sais que nous, on travaille de manière intelligente. C'est-à-dire que, encore une fois, on est là pour accompagner l'artiste et pas le bloquer. C'est-à-dire que si d'un coup, il pète et que du coup, il veut renégocier son avance, son taux ou je ne sais quoi, on peut bien entendu en parler et on est là pour ça, tu vois. Mm. Justement, on ne va pas être fermé. Et le garder sans avance avec un taux le plus bas possible, parce que dans tous les cas ça sera pas bon pour nous, parce que forcément il y a une image, enfin on a une image,
ouais.
Et l'artiste va forcément, si tu dois signer pour si t'as signé pour 2 albums, t'en as sorti un, après le premier il explose et on veut pas renégocier pour le deuxième, ben, en fait tu vas sortir ton deuxième et tu vas partir.
Ok, mais du coup dans l'exclu, est-ce que, parce que tu parlais des agrègues, mais par exemple si, imaginons là j'ai signé chez Belief pour 2 projets, est-ce que je peux me barrer après, imagine ça se passe mal, ça se passe mal, pardon. Est-ce que je peux me barrer après le premier et par exemple aller chez un agrègue?
Bah non, justement.
Théoriquement non.
Étant donné qu'on a signé pour 2 albums, t'es censé sortir ces 2 albums chez nous. Maintenant, il y a... enfin, tu vois, j'ai eu des cas selon lesquels des avocats sont entrés dans la boucle et ont essayé de casser un contrat. Tout est possible en réalité, ouais. Mais après, il y a des énormes complications. Mais le plus simple, c'est juste de respecter le catalogue que tu as défini avec le distributeur, de le sortir, et après, tu es libre.
Ok.
Ouais.
Alexis, tu as prononcé un mot magique, tu as parlé d'avance. parlons-en rapidement.
Yes.
On reçoit aussi du coup des avances si on signe un contrat de distribution. C'est possible en tout cas?
C'est totalement possible. C'est totalement possible. Ça dépend de... alors, les avances en distribution vont vraiment se baser sur les chiffres que l'artiste fait, c'est-à-dire sur les streams qu'il fait, qu'il a généré sur la dernière année par exemple, et sur la manière dont ces streams se comportent et dont un projet se comporte d'un point de vue stream tout simplement, dans le sens où en distribution on n'est pas producteur, on est distributeur, donc forcément on est obligé de se baser sur quelque chose pour projeter des revenus, tu vois, et c'est juste ça. C'est-à-dire que si si je suis en relation avec un artiste qui a sorti un album l'année dernière qui a généré environ, je sais pas, 100 000 euros sur l'année, bah je sais que je peux projeter pour un prochain album 100 000 euros sur la première année. Donc je vais lui proposer aux alentours de 100 000. Après, ça dépend sur, justement, encore une fois, sur quoi on part. S'il veut rajouter des singles en plus, une réédition, un EP, s'il y a tel ou tel feat, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Mais alors, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à quoi elle sert cette avance. Parce que autant je comprends pour un contrat d'artiste, c'est pour financer plein de choses. Un contrat de licence, je comprends aussi. Mais en distrib, vu qu'on arrive en bout de chaîne, à quoi sert l'avance? C'est de l'argent de poche pour l'artiste ou...
bah justement, l'avance en distribution, elle est encore plus importante que dans les autres contrats. Puisque on n'a pas de service interne en distribution, enfin pas de service interne que d'autres labels ont, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'attaché de presse, on n'a pas d'équipe marketing qui va bosser sur une stratégie, on n'a pas d'équipe merch, de branding, etc. Donc justement, quelqu'un qui est en distribution, qui a un bon budget, il va pouvoir utiliser toute cette avance pour faire ses clips, pour aller en studio, mixer, masteriser, payer un attaché de presse, payer une agence marketing, tous les services justement externe que nous on n'a pas en interne.
Donc il faut pas forcément aller voir les boîtes avec ton projet déjà terminé en fait, parce que ça veut dire que, enfin, on peut, mais tu toucheras pas forcément d'avance si t'as déjà fait pas mal de choses.
Tu peux, parce que justement ça peut te permettre aussi de rembourser ce que toi t'as investi. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de producteurs avec qui j'ai négocié, qui m'ont dit voilà tel artiste, il a pété il y a 6 mois, il a tout explosé, voici son nouvel album qui veut sortir dans 6 mois. Écoute-le, dis-moi ce que t'en penses, si ça t'intéresse, on en discute. Et forcément, lui, quand il va récupérer donc toute cette avance, il va en prendre une partie pour se rembourser s'il a produit tous les enregistrements ou même des clips, parce qu'en général, ils s'y prennent en avance pour justement nous proposer un produit de qualité.
Le merch, il peut être aussi géré par la boîte de distrib ou c'est totalement interne à l'artiste ?
Ça va être plus interne à l'artiste, ouais, en général.
Okay. Et peut-être une question quand même importante, même si ça... c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais le physique, les sorties physiques, c'est géré par les mêmes contrats que, par exemple, voilà, est-ce que je l'intègre dans mon contrat de distribution digitale ou est-ce que c'est un truc à part ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est pertinent aussi encore aujourd'hui pour des jeunes artistes de tenter du physique ?
Alors, pour des jeunes artistes, je pense que non. Pour être clair, je pense que c'est pas très intéressant de faire du physique, sauf si tu veux en faire en petite quantité, en 50, 100, 200, pour les vendre à tes concerts, par exemple. Mais... nous, on va pas faire de contrat physique avec tout le monde, justement. Le digital, il n'y a aucun souci, ce qui est logique, c'est notre cœur de métier. Le physique, on va le faire vraiment avec les artistes sur lesquels c'est intéressant et sur lesquels le fait d'en faire rendrait viable le contrat et l'exploitation de son projet. C'est-à-dire que, encore plus actuellement, c'est-à-dire que les magasins sont fermés, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de ventes physiques qu'avant. Clairement, on peut pas se permettre de signer un artiste en physique quand il est en développement. Donc ce qu'on va faire en général, c'est de la même façon qu'on va le rediriger vers un attaché de presse, bah en fait on va le rediriger vers un distributeur indépendant. Distributeur physique, tout simplement.
Ça coûte beaucoup plus cher, non, de...
Pas forcément, non. Pas forcément. En fait, c'est le même principe qu'un agrégateur, c'est-à-dire que tu vas payer soit un forfait, soit... Enfin, tu vas négocier avec le distributeur, donc forcément tu vas payer, il va prendre un pourcentage ou quoi. Nous, c'est vrai que quand on fait du physique... L'artiste n'a pas besoin de payer réellement le pressage. Mais donc du coup, il y a un taux qui joue. Mais en fait, c'est un peu le même principe. C'est juste qu'un distributeur physique va pouvoir te faire des quantités beaucoup plus faibles que nous. Nous, on va vraiment...
C'est plus long comme processus, j'imagine.
C'est plus long, mais ça peut être intéressant pour l'artiste. Nous, justement, on se positionne en général sur du physique que quand on est sûr de pouvoir vendre une certaine quantité de CD, tu vois, 1500, 2000, 3000, tu vois. Et on sait qu'un artiste en développement ne pourra pas en vendre autant en Fnac ou en
magasin. C'est vrai, en développement, non. Mais il y a eu quand même un essor récemment du physique,
ouais,
je trouve.
Ouais,
pour certaines typologies d'artistes, en plus.
Bah,
ouais.
Avec des artistes un peu de niche, tu vois, genre les... avec tous les packs de précommandes, j'ai vu, t'avais des midweek qui étaient... Enfin, même des précommandes qui étaient... Alors, je sais plus, c'était Val, je crois, qui avait pour le...
C'est possible.
Le Monde des
Cruels, je crois. Il a vendu aussi.
Je crois qu'il était disque d'or avant la sortie, ou presque disque d'or avant la sortie. Bah, Alpha One, je crois que ça avait archi bien marché en physique. Freeze Corleone, pareil, je crois. Après, je pense que, ouais, c'est pas tout le monde.
Ouais, c'est ça.
C'est pas tout le monde. Mais t'as ce truc-là, même les vinyles, c'est revenu il y a quelques années aussi.
Ouais, complètement. En fait, ça dépend vraiment de l'artiste, mais nous, justement, on va être là pour analyser son public, entre guillemets, physique, pour savoir si, oui ou non, on se positionne dessus, tu vois.
Comment on contacte les distributeurs et est-ce qu'on a une petite liste de distributeurs importants qu'on peut citer ici pour donner un aiguillage à nos auditeurs ? Alors il y a Believe, évidemment.
Il y a Believe, bien sûr. Il va y avoir Idol aussi,
ouais,
qui était notre concurrent direct. Enfin, je dis « était » parce que nous, maintenant, on a aussi des labels, donc c'est un peu différent. Et il y a justement tous les... Alors il y a beaucoup de labels indépendants aussi qui vont faire de la distribution. Il y a Curoneco, donc qui est distribué par nous, mais qui va proposer un service du coup de distribution. Et il y a tous les labels qu'on connaît, qui sont dans les maisons de disques, dans les majors, qui ont de manière générale toujours su proposer des contrats de distribution.
Ok. Vas-y.
Tu me disais comment on contacte, ça va être... un peu partout, tu vois, je reçois ça va être des mails, des contacts en commun, Insta, beaucoup aussi Insta.
C'est pas rédhibitoire, ça va, on peut contacter par Insta.
Moi, en général, j'ai du mal à... En fait, je reçois beaucoup de demandes, donc c'est vrai que...
Ouais, c'est un peu compliqué.
Et je reçois beaucoup de demandes où il y a juste marqué « Salut, ça va ?»
Ouais.
C'est pas évident de répondre à ça.
On l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais structurez bien vos demandes. Je vous renvoie à l'épisode sur les contacts médias. Je crois que c'était l'épisode 12. Il y a pas mal d'infos dedans sur comment contacter proprement. Mais oui, en gros, ça veut dire aussi envoyer quoi ? Un dossier de presse, envoyer tes sons, envoyer tes maquettes.
Ça va être vraiment nous ce qu'on va demander, justement, quand on nous demande une distribution. Ça va être de demander des sons, demander un planning, une stratégie, et savoir comment organiser l'équipe autour de l'artiste. C'est vraiment ces 4-5 points qui sont très importants parce que ça nous permet justement de se rendre compte de comment va se comporter un projet quand il va sortir.
Ouais. Les équipes, très important d'en parler dans l'épisode précédent, c'est un vrai gage de garantie pour les professionnels que vous allez contacter, je pense. BGL, t'as déjà essayé de contacter toi des distributeurs, t'en as peut-être des noms en tête?
Je sais que mon nom a tourné à quelques endroits, mais moi j'ai jamais contacté directement des gens, où il y a longtemps. Et heureusement qu'ils m'ont pas répondu parce que c'était éclaté.
Ouais, faut aussi contacter un peu au bon moment quand même.
Oui,
quand
c'est
on est
ça.
Sûr de
bah, y a un peu de ça aussi, c'est que je m'étais retrouvé des fois à avoir un contact, pas forcément direct, mais avec quelqu'un à droite. Enfin, même si direct en fait, où je m'étais retrouvé à chaque fois, je me disais, mais c'est trop tôt. Et c'est très bien parce que des fois, j'ai eu des contacts à droite, à gauche, que j'aurais pu aller voir, mais avec du recul, je suis content de pas leur avoir montré les sons que j'ai fait il y a 2 ans.
Mais c'est totalement ça, surtout que moi j'ai parfois des demandes d'artistes qui veulent être distribués alors qu'ils ont sorti un son ou deux sons sur les plateformes. Et en fait tu te dis mais déjà développe ton projet et comme ça on pourra même nous, enfin pour nous et pour toi ce sera plus simple parce que quand l'artiste est plus développé justement c'est à ce moment-là que nous on aura une réelle plus-value à lui apporter. Quand il n'est pas assez développé, alors on pourrait le signer et distribuer ses titres, mais étant donné encore une fois qu'on est en fin de chaîne comme on en parlait tout à l'heure, on va rien lui apporter à part lui prendre 30%. Et est-ce que ça lui servira vraiment? Je pense pas.
Et je précise avant de conclure que sur Groover aussi, puisque quand même c'est important de le dire, il y a un certain nombre de labels et de maisons de distribution. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dessus si vous cherchez des gens. Nous, on approche de la fin de l'épisode. C'était très riche. Merci beaucoup à tous les deux, BGL et Alexis Borenstein de Believe, parce que vous nous avez donné beaucoup de tips, donc c'est important, merci beaucoup. On se quitte évidemment pas comme ça, on va laisser la place au live et c'est BGL qui va s'en charger. Alors on part sur quoi? On part sur un freestyle, sur quoi?
C'est le prochain son qui va sortir.
Ok.
Et c'est un son mais qui a rien à voir avec le morceau qui est sorti juste avant,
avec Black Mamba,
ouais. Qui lui pour le coup ça a été un peu un bluff, genre je l'ai écrit à 3 ans.
Ok.
Et la prod ressemblait pas à ça du tout. J'ai changé des placements, j'ai changé plein de trucs. On a pas mal bossé dessus. Et c'est ma DA qui m'a tanné pour le faire. Au final ça a eu franchement un bon accueil. Après c'est pas représentatif du tout de ce que je fais maintenant. Celui-là ça montre une certaine corde, mais c'est un son qui est archi simple. Il y a juste une lead. Même à l'enregistrement, au mix, il y a genre un piano, il y a pas de refrain. Enfin, il y a juste la prod qui fait un pont avec le piano, il y a quelques voix qui rentrent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'ambiance. Et j'ai hésité entre différents sons. J'en avais un vieux qui traînait dans un placard que j'ai écrit il y a un peu moins d'un an. Il découpe, je l'avais oublié. Mais je suis d'humeur calme en ce moment. Alors, du coup,
soyons calmes, soyons posés. Donc, il s'appelle comment? Il a un nom?
Qui?
Et on pourra le retrouver sur les plateformes?
Ouais.
À partir de quand?
Si tout se passe bien, il sort le 14 mai.
Ok, donc vous l'aurez, vous qui écoutez l'émission
vous
sortira en juin, donc vous pourrez aller directement.
Il y aura un clip avec aussi.
Bah, trop bien. Ce live est filmé, quoi qu'il en soit, donc vous pourrez aussi retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Groover. Merci à eux pour la confiance, merci Marguerite et Timothée qui est là aussi pour l'organisation. Merci au Poste Général de nous accueillir, de nous soutenir et de nous diffuser. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Chips. D'ici là, croyons en vous, c'est le plus important. Ciao.
Qui se cache derrière le stylo? Quelle est son place? Quel est son parcours? Quel est son cache? Quel est son casse-croûte? Est-ce qu'il est casse-cou? Est-ce qu'il est casse-couille? Est-ce qu'il écrit et qu'il efface tout? Qui est-il? Qui es-tu? Qui est-on? Qui est-il? Qui n'est plus? Qui est tombé? Qui est comblé? Qui veut du love? Sorti de la cave, vous sorti du loft. Quelle est sa drogue? J'aimerais savoir, on en a tous une. Arrive en retard ou en avance, quel est son vice? Qui est son fils? Quelle est son adresse? Dans sa playlist, c'est quoi le son d'après? Influencé par quoi? Influencé par qui? Attiré par les filles simples, attiré par les barbies.
à peine arrivé ou déjà parti. Concentré ou qui s'éparpille. Les yeux s'écarquillent ou se ferment vite. Perfide ou méconnaître, grave speed ou déconnecté. Remarquable ou méconnaissable. Habillé comme un sac ou accro des sables. Proche de la nature auprès des pots d'échappement. Inconnu dans le club ou qui connaît chaque membre. Si chez toi y'a du plomb, si chez toi y'a du seuil. Citoyen du monde ou citoyen du ciel. N'importe qui ferait n'importe quoi, ton nom m'importe peu. Demande à Dieu ce qu'il t'apporte pas. Tu veux parler, tu veux d'abord te battre. Machine arrière lorsque ta porte claque. Gueule cassée au visage d'ange. Vie de famille remplie d'absence. Tu comprends pas leur langue quand les grands te parlent. Qui t'attend derrière la porte si tu rentres pas. Ancien ou néophyte. Est-ce que t'es ancien, est-ce que tu plais aux filles. Quel est ton succès, qui va te succéder. Quel album est gravé sur le CD. Ton réveil sonne à quelle heure. Qu'est-ce que t'as fait hier. Raconte un fait divers ou deux qu'on apprenne à se connaître. Sois heureux ou fais semblant de l'être. Héritier d'Adam ou descendant de Dev. Tu fais quand y'a personne à la maison. Tu danses, tu rappes, tu chantes, tu craques un peu passionnément à la folie. C'est quoi ton rapport à la police. Est-ce que t'as déjà pris un molly. Ça te rend fou de savoir qui pense quoi. Dis-moi comment tu te sens dimanche soir. Dis-moi est-ce que tu sais dire au revoir. Faut croire que c'est à mon tour de raconter deux trois faits divers. Est-ce que toi aussi tu pleures qu'au ciné ou après divers. Est-ce que t'es pas bien quand on t'applaudit pas. Est-ce que tu confonds tes rêves et ceux des Audimat. La journée tu fais des blagues, le soir t'écris des trucs tristes. Ambition destructrice. Tu veux pas qu'on te dise que tu fais pas le poids. Ta pire phobie, c'est qu'on se rappelle pas de toi. Merci Matka pour cette run incroyable.
Ouais. Ça, c'était cool, bravo.
Merci ouais. Beaucoup.
C'était une émission du Poste Général.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.